Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Pour le léopard, ce qui compte, c'est la quantité, pas la qualité. En moyenne, la copulation dure simplement 3 secondes.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Mais au cours des 72 heures à venir, ces deux-là vont se livrer à un véritable marathon.
Ingrid, est-ce que tu baises ?
Oh là !
Très belle mise en onde de notre réalisateur François Touchard, oui, du Coq à l'âne.
Ça permet de relativiser.
Oui, ça c'est vrai. Voilà. 3 secondes, bon, on va faire mieux.
Voilà.
Bonjour Hugues Demeude.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Soyez le bienvenu. On est ravis de vous accueillir au micro de la curiosité. Vous êtes journaliste et spécialiste des sujets de nature et d'environnement. Et avec vous, on part en Afrique de l'Ouest. Pas à la découverte du léopard, mais plutôt d'un drôle de couple à la sexualité débridée. Vous nous connaissez la curiosité. Tout de suite, ça nous a attiré. C'est le baobab et la chauve-souris. Alors tout de suite, il y a des images qui apparaissent comme ça. On est presque un peu inquiet. On s'est dit, on a manqué quelque chose de l'évolution. Mais il y a une histoire évidemment derrière cela. On va commencer déjà par le baobab pour comprendre ce que cet arbre représente en Afrique de l'Ouest.
Alors le baobab, on a tout de suite une image qui l'associe à l'île de Madagascar. On a des cartes postales comme ça en tête. Or, effectivement, il est très présent en Afrique de l'Ouest, au Sénégal en particulier, où il est très présent dans l'imaginaire collectif.
Il ressemble à quoi déjà ce baobab ? C'est quoi son allure ?
Il est immense, le baobab. Il est immense, il peut faire jusqu'à 22 mètres de circonférence.
Ah oui.
Il y en a un spécimen comme ça au Sénégal. Et puis il a des caractéristiques tout à fait surprenante. Alors, parmi ses caractéristiques, il y a sa longévité. Dans un climat aussi aride que l'Afrique de l'Ouest, il peut vivre jusqu'à 1000 ans, ce qui est quand même tout à fait surprenant. Et alors, pourquoi peut-il vivre aussi longtemps ? C'est qu'il a la faculté d'absorber, lors des grands épisodes de pluvieux, lors de la saison des pluies, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau.
Et il la conserve, en quelque sorte. Il l'absorbe, il la conserve.
Comme une éponge, effectivement. Ah oui. Oui, comme une éponge. C'est pour ça que même certains ont tendance à classer le baobab comme une plante presque, puisqu'il a très peu de lignine. La lignine, c'est le matériau, c'est la molécule qui permet de classer les arbres, donc de le rigidifier. Mm-hmm. Très peu de lignine, mais donc ce qui lui permet d'absorber beaucoup beaucoup d'eau, effectivement, jusqu'à des quantités considérables.
100 000 litres, c'est ça ?
C'est, ouais. Exactement.
C'est le chiffre qu'on cite souvent.
Oui.
Par baobab, dans un baobab, on peut trouver 100 000 litres d'eau.
Exactement. Et donc c'est un réservoir. C'est un réservoir très très surprenant qui lui donne cet aspect si ventru, si massif, ouais. N'est-ce pas ?
Est-ce qu'il produit aussi des aliments ? Parce qu'on commence à comprendre l'importance du baobab pour la nature et les populations qui vivent autour. Qu'est-ce qu'il produit le baobab ?
Alors, effectivement, c'est un arbre de vie. On le considère comme tel localement. C'est un arbre de vie qui produit un fruit qu'on appelle le pain de singe.
C'est un
curieux nom, c'est-à-dire que ça donne vraiment un gros fruit très très ventru qui est recouvert d'une coque permettant de le protéger, mais qui a la particularité, ce fruit-là, d'être extrêmement vitaminé et donc d'apporter beaucoup beaucoup de bienfaits, de nutriments pour les populations locales qui s'en servent abondamment, bien sûr.
Alors pourquoi ce baobab a une urgence à se reproduire ? Alors c'est parce que les humains justement l'épuisent, puise dans son eau, mange ses fruits, ses feuilles.
Alors, comme tous les arbres, il a vraiment un cycle reproductif annuel. Enfin, comme tous les arbres qui se reproduisent avec des plantes, avec des fleurs, hein, donc qui doivent être pollinisées pour se reproduire, pour produire les fruits qui ensuite les fruits donneront des graines et des graines qui permettront à l'arbre de se disséminer. Alors,
et c'est là qu'apparaît, j'imagine, parce que si Denis a commencé quand même en disant, on va vous présenter
ça.
Un drôle de couple à la sexualité débridée. Moi, je suis pour l'instant, j'ai eu que le baobab.
Sauf qu'il nous faut du sexe maintenant.
Il y a la chauve-souris. Mais alors, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, la chauve-souris ?
Alors, c'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est un processus qu'on appelle de co-adaptation. C'est-à-dire que le baobab ne peut être pollinisé, le baobab d'Afrique de l'Ouest, ne peut être pollinisé qu'avec une chauve-souris. On a tendance, sur la pollinisation, à penser que c'est avec des insectes, avec des abeilles, des papillons ou d'autres insectes. Mais là, donc, c'est la chauve-souris qui produit ce phénomène de pollinisation. Et alors, comment ça se passe ? C'est extraordinaire. C'est le baobab qui, à la fin de la saison, la fin de la saison sèche, se défeuille et pousse soudain une fleur, une grande, enfin, donc des milliers de fleurs sur son arbre, des fleurs qui s'ouvrent à la nuit venue. C'est-à-dire à partir de 20h, la
quand
fleur
les abeilles
arrive.
Dorment.
Voilà. Alors, quand les et quand les chauves-souris se réveillent.
Et à rebours des autres fleurs qu'on a l'habitude, en général, c'est ça annonce l'aube et ça annonce la journée. Là, c'est l'inverse. Donc cette fleur, s'ouvre, une grosse fleur qui dégage une odeur que nous, on considérera comme nauséabonde, mais qui attire terriblement la chauve-souris et qui vient, la chauve-souris vient dans la fleur, s'accroche à sa corolle pour s'abreuver de son nectar. Mais alors, ce qui est vraiment tout à fait surprenant, c'est que il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il ne vient pas simplement pour s'abreuver du nectar. Les scientifiques ont pu démontrer, évidemment, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais des scientifiques ont pu démontrer que le baobab dégage des phéromones sexuelles qui sont l'équivalent des phéromones sexuelles que peut dégager la femelle, femelle chauve-souris.
Pour attirer le mâle.
Pour attirer le mâle. On a effectivement vu que c'était essentiellement des mâles qui venaient s'abreuver et polliniser de fleur en fleur, puisqu'ils...
Et oui, on a bien compris. Et donc, c'est la chauve-souris qui va ensuite polliniser et permettre au baobab de se reproduire dans la nature de cette Afrique de l'Ouest, entre autres.
Vous publiez, Hugues de Meuse, Les incroyables pouvoirs de la nature chez Artaud. Tout de suite, on va découvrir la reine termite.
Chacun doit renoncer à une part de lui-même dans les jeux de l'amour.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et pour les compagnons des mantes religieuses, cette part d'eux-mêmes s'avère parfois être leur tête. Sur RTL, elle est séduisante. Irrésistible même.
La curiosité est un vilain défaut.
Si vous êtes blonde, à forte poitrine, ça l'intéresse aussi.
Oui, bonsoir tout Charles, notre réalisateur. Beaucoup. La menthe religieuse que les spécialistes, c'est le nom savant, surnomment la gourmande.
Mais bref, dans les mises en œuvre de François, les humains ont l'air plus crétins que les animaux. Alors ça fait un peu peur.
Enfin, ce que la nature imagine pour se reproduire. Voilà ce qu'on vous propose jusqu'à 14h30 sur RTL avec Hugues de Meude, qui est journaliste spécialiste des sujets de nature et d'environnement. Alors, on va parler des termites maintenant, un insecte qui vit sous terre et sur terre
sous
aussi.
Sous votre lit peut-être parfois aussi.
Oui, c'est vrai. Sur la planète, sur notre planète, c'est un vieil animal en quelque sorte.
C'est un animal primitif, figurez-vous, qu'il existe depuis au moins 250 millions d'années. Donc c'était à l'époque du Jurassique et même avant, au Trias. Et il a donc connu les dinosaures. On évolue auprès d'animaux qui ont connu les dinosaures.
Ça, c'est fascinant. Et donc, pour être encore là, forcément, il y a eu des stratégies de reproduction qui ont fonctionné et une organisation sociale aussi. C'est quoi l'organisation sociale des termites ?
Alors, c'est une organisation sociale très sophistiquée. On l'appelle du reste, vraiment, effectivement, ce sont des insectes sociaux, à l'image des fourmis qui sont arrivées bien après les termites sur Terre ou les abeilles. Alors, quand on parle d'insectes sociaux, on imagine effectivement une organisation autour, là en l'occurrence, des termites ou des 2700 espèces de termites, autour d'une reine et d'un roi. Voilà, c'est tout se passe autour d'eux, pour eux, en fonction de leur mission première, qui est donc la reproduction. La reine termite doit reproduire énormément d'œufs chaque jour.
On va raconter évidemment comment elle s'y prend, mais il faut décrire peut-être un peu, Hugues de Meude, leur habitat. Ça ressemble à quoi ? Une sorte de château sous terre ? Quel est le palais de la reine ?
Alors, les termitières sont très différentes selon que l'on se trouve dans les forêts de climat tempéré, comme chez nous, ou alors dans la savane africaine, puisque là, effectivement, les termites rayonnent sur des aires géographiques très, très importantes, en raison notamment, effectivement, de cette diversification d'espèces que je mentionnais juste avant.
Donc, il y a plein d'étages dans une termitière ?
Il peut. Alors, effectivement, c'est un animal qui vit sous terre, hein, effectivement, comme vous le mentionnez, Thomas, c'est-à-dire qu'elle appréhende la lumière, mais effectivement, elles peuvent à la fois vivre sous terre et comme l'espèce qu'on appelle macrotherme bellicosus, oui, c'est le terme générique, terme scientifique, et qu'on construit de véritables cathédrales avec effectivement des tours qui peuvent s'élever à plusieurs mètres de haut, des tours de terre que les insectes donc ouvrières, les termites ouvrières, construisent elles-mêmes.
La chambre de la reine qui doit être exceptionnelle. Elle ressemble à quoi la chambre de la reine termite ?
Alors c'est effectivement la chambre royale et blotti, caché dans un coin de l'intermédiaire. Ce n'est pas forcément toujours le même, et du reste, il est assez toujours compliqué pour les scientifiques de savoir où elle se trouve, mais c'est vraiment une chambre où le roi et la reine sont confinés du début de la construction de l'intermédiaire jusqu'à
la fin
mort.
De leur vie. Quoi.
Exactement.
Ce n'est pas forcément un cadeau de devenir reine des termites. Combien d'enfants, de rejetons produit-elle, pardon de ce terme, par jour?
Alors figurez-vous que c'est un œuf qui est pondu toutes les 2 à 3 secondes. Donc on considère que ça peut aller, voilà, c'est sur des chiffres faramineux.
40 000 par jour, je dis dans votre livre.
Exactement.
50 millions par an.
Ça peut, effectivement.
Mais
pour
tous
la
ces gens-là vivent après dans la termitière,
oui,
ça,
oui,
et
oui,
servent
oui.
la reine.
Oui, parce que effectivement, ce sont des. Ensuite, comme on parlait d'organisation sociale très sophistiquée, il y a les ouvrières, il y a les termites soldats, il y a les termites qui s'occupent de tous les œufs, hein, ça peut être les puéricultrices qui vont chercher les œufs au moment de l'éclosion et qui les amènent dans la chambre d'éclosion. Et puis ensuite, il y a la nourrice qui sera chargée de
Incroyable.
Les nourrir.
Mais ce couple, c'est le seul à produire des bébés. Comment font-ils pour empêcher les autres de le faire? Vous voyez ce que je veux dire?
Exactement, c'est une grande question. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il n'y en ait qu'une seule qui soit fertile? Ouais. Pourquoi les autres ne le seraient-elles pas, les autres femelles? Bon, alors, le mystère a été levé par les scientifiques. Évidemment, toujours dans nos histoires, nous nous basons sur les recherches des scientifiques. Et les scientifiques se sont rendus compte que la reine termite pouvait émettre des phéromones qui neutralisaient la maturité sexuelle des autres termites. Et donc, moyennant quoi, avec cette phéromone qui se diffuse dans la termitière, les autres femelles ne peuvent pas elles-mêmes être fécondes.
Donc je me suis trompée, la reine mère pond 40 000 œufs par jour, ça fait 15 millions d'œufs.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà énorme, voilà. La correction est apportée. Autre stratégie de reproduction tout de suite et de survie aussi de l'espèce avec les manchots.
Sur l'île de Rome, à environ 95 km au nord d'Oranse, les pluies abondantes ont une conséquence inattendue.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
À cette époque de l'année, la femelle du cerf Elaf est censée être en chaleur, ce qui déclenche la période du rut.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais le temps humide a retardé tout le processus.
Tu veux, tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis.
Il faut se décider, quoi.
Bah oui, c'est ça. À un moment, il faut se décider. Ou partir. Quand la nature invente des stratagèmes pour se reproduire, évidemment, ça intéresse les curieux que nous sommes. On en parle avec notre invité, Hugues Demeute. Vous êtes journaliste spécialiste des sujets de nature et d'environnement. Et ça, c'est une découverte qui a bouleversé le monde il y a quelques années. Les manchots pratiquent l'homoparentalité. Alors déjà, pourquoi c'est étonnant?
Alors, à quel moment, déjà, on l'a vraiment découvert? C'était au milieu des années 90, dans des zoos, dans les zones de captivité, ouais. Où on a vu, effectivement... des mâles qui s'appareillaient, des mâles manchots qui s'appareillaient.
Ça veut dire quoi, qui s'appareillaient?
Qui vivaient en couple.
Qui
allaient même jusqu'à couver un œuf.
Ah oui. Ah,
c'est ça qui a surpris.
C'est-à-dire qu'ils avaient une sexualité aussi ensemble, ou ils ne font que couver un œuf ensemble? C'est pas pareil.
Non, effectivement. C'était une homoparentalité, en l'occurrence.
Ils élèvent leurs enfants, enfin, leurs petits ensemble.
Effectivement. Mais la question de tous les couples sont dans la nature se pose effectivement, et va jusqu'à la question de l'homosexualité dans la nature, qui est beaucoup plus abondante qu'on ne pourrait l'imaginer. Mm-hmm. Je prends pour preuve une recherche qui a été menée par un scientifique canadien à la fin des années 90, qui où il a étudié 1500 espèces animales, et il a réussi à déterminer que 450 mm-hmm. espèces avaient des pratiques homosexuelles, ce qui est quand même un pourcentage assez important.
Ça répond à tous ceux qui pensent le contraire, au moins c'est clair. Que se passe-t-il quand l'œuf est pondu? Alors que fait la maman? Puisque vous nous dites qu'il y a des papas qui décident de s'occuper de l'œuf. Que fait la maman déjà?
Alors là, on se retrouve dans l'Antarctique avec les manchots empereurs. C'est ça qui est le plus étonnant dans leur manière d'apporter des soins parentaux. On est donc dans l'Antarctique, on est sur des colonies de manchots empereurs qui ont la caractéristique parmi tous les autres manchots d'être très grands, très forts, sont les plus grands, les plus forts, mm-hmm. et ils ont l'impossibilité de monter sur l'île, sur les îles.
Pour une faranie, c'est ça, dans des pierres
exactement.
Ou comme pour un certain
pingouin. Contrairement à d'autres manchots qui peuvent le faire, eux ne peuvent pas, donc ils sont obligés d'attendre que l'hiver Antarctique arrive, donc c'est maintenant quoi, à peu près, c'est avril-mai, pour s'installer en colonie sur la banquise. Et là, à partir de là, effectivement, la mère pond un œuf et elle le dépose avec la plus grande délicatesse possible sur les pattes qui sont très vascularisées de son mâle manchot.
Vascularisé, ça veut dire que c'est chaud, c'est ça, que ça apporte de la chaleur à l'œuf qui va rester là pendant combien de semaines?
Exactement. Et là, on retrouve cette question de l'homoparentalité, parce que cet œuf en forme de poire qui pèse à peu près 500 grammes est déposé sur les pattes de chacun des papas manchots, d'une certaine manière, qui reste là en colonie pendant que les mères se groupent pendant que les mères sont parties pour refaire de l'énergie pendant 2 mois, pour répondre à votre question de façon très précise. C'est-à-dire pendant 60 jours, le mâle va tenir son œuf sans manger, bien sûr, et donc il va jeûner pendant 60 jours, et il va essayer de vaincre les éléments, moins 35 degrés, des vents qui vont à 150-200 km/h, donc des conditions totalement dantesques.
Mais dans ce groupe, j'imagine qu'il y a des groupes de manchots, il y a les meilleures places, j'imagine celle du centre, moi j'irais direct au centre, forcément, entouré par les autres. Est-ce qu'il y a une rotation, ça se passe comment entre les manchots?
Vous l'avez bien imaginé, effectivement, c'est comme ça, la meilleure place est au chaud, et puis donc à tour de rôle, dans cette en forme de tortue, quoi, on pourrait dire, dans cette agglomération de manchots, ils vont à tour de rôle se retrouver soit au centre, soit à l'extérieur, et comme ça, d'une certaine manière, effectivement...
Mais comment ils font avec un œuf qui est quand même ultra fragile? Ils se déplacent avec l'œuf sur les pattes?
Oui, ils se déplacent avec l'œuf sur les pattes, c'est extraordinaire.
Ils sont plus adroits que vous, Thomas.
Longtemps qu'il n'y avait pas une vanne.
Non, je suis d'accord avec vous, c'est ça, ça fait partie de cette magie de la nature. Bon, alors qu'il a été déjà, effectivement, pour ceux qui s'en souviennent, mis en scène par Luc Jacquet dans La Marche de l'Empereur, exactement, en 2005, je crois, de mémoire, et qui montrait bien ce processus et cette manière de faire, qui montre à quel point les animaux peuvent témoigner de soins parentaux extraordinaires.
Merci beaucoup, c'était passionnant, et votre livre s'appelle Les incroyables pouvoirs de la nature chez Artaud. Il y a plein d'autres histoires fantastiques à découvrir. Merci Hugues Demeude.
Merci beaucoup.
À bientôt.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.